Le bienheureux Jean-Paul II a fait beaucoup pour le Liban, pour l'Église du Liban, pour le peuple libanais. Et il a toujours accompagné les événements libanais depuis qu'il a été élu pape. Il n'a jamais cessé de faire ses appels, soit aux Libanais, soit à la communauté internationale, soit aux musulmans, par tous les moyens. Et deuxièmement, il a convoqué un synode spécial pour le Liban. Il a visité le Liban, il a voulu proclamer l'exhortation apostolique de Notre-Dame du Liban de Harissa. Alors, en signe de reconnaissance et de gratitude, le président de la République libanaise a envoyé sa femme pour le représenter. Et moi, avec des évêques, des supérieurs généraux, des prêtres et des laïcs, nous sommes venus justement pour vénérer le bienheureux pape et aussi pour exprimer notre reconnaissance et pour prier pour que par son intercession, le Liban soit et devienne ce qu'a voulu le pape Jean-Paul II, qu'il soit un message et un exemple pour l'Orient, pour l'Occident.
Vous venez de le souligner, Jean-Paul II avait déclaré « Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message », des paroles très fortes. Est-ce que sa visite en 1997 a laissé de nombreuses traces ?
Sûrement, parce que ça nous a donné un élan pour aller de devant et pour être conscients aussi, nous les Libanais, soit chrétiens, soit musulmans, que le Liban représente ce message. Quel est le message libanais ? Le message, c'est qu'on peut vivre dans un pays à régime civil, non théocratique, mais ouvert au respect de la dimension religieuse. Nous pouvons vivre ensemble, mais en même temps conserver et préserver l'identité de chaque communauté. C'est ce qu'on appelle le message libanais, le pacte libanais de convivialité. C'est différent de la coexistence. Partout dans le monde, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Mais le Liban organise cette présence selon la Constitution et donne la possibilité d'être représentés et de participer tous à égalité dans le pouvoir, soit politique, soit administratif. C'est ça ce que fait le Liban comme message. Il respecte les dimensions religieuses et morales d'un côté. Deuxièmement, il ne peut qu'être un régime démocratique qui respecte toutes les libertés publiques et surtout la liberté de conscience et la liberté religieuse.
Près de 15 ans après la visite de Jean-Paul II au Liban, la situation reste encore particulièrement tendue au Liban et dans toute la région. Cette béatification peut-elle être un signe de paix, de réconciliation envoyé au peuple libanais, au peuple de toute la région ?
Au Liban, qu'est-ce que c'est le problème ? Ce n'est pas un problème de conflit entre chrétiens et musulmans. Ce n'est pas un conflit civil. C'est le conflit entre sunnites et chiites du Liban. Mais un conflit politique qui a ses implications avec le continent, les pays du continent, et avec les implications internationales. C'est un conflit, malheureusement, politique, où les chiites et les sunnites s'expriment dans cette crise politique libanaise. Nous n'avons pas besoin d'une réconciliation au niveau national au Liban. Nous n'avons pas besoin de réconciliation entre chrétiens et musulmans. On a besoin d'une réconciliation d'abord entre les musulmans sunnites et chiites et une réconciliation entre les autres parce que le Liban est divisé entre ce qu'on appelle le 8 et le 14 mars. Le 8, c'est l'alliance avec les chiites, Hezbollah et chiites. Et le 14 mars, c'est l'alliance avec les sunnites. À cause de ces deux alliances, les chrétiens sont en conflit. Nous sommes en train maintenant de reconstituer cette unité en leur disant, écoutez, on peut faire les alliances qu'on veut, mais il faut que nous soyons d'accord sur les constantes nationales et sur l'objectif de l'action politique. Et vos options politiques, vos alliances qui sont des options politiques, ne sont que des moyens pour atteindre les objectifs. Il faut que vous considériez comme complémentaires et non comme conflictuels. Voilà les problèmes que nous vivons actuellement. Dans le monde arabe, c'est différent. C'est les manifestations contre le régime, ou bien c'est des manifestations qui réclament leurs droits particuliers. Les gens, et ils ont leurs problèmes dans ce monde arabe. Nous espérons qu'avec cet événement de la béatification de ce pape qui a tant aimé le Moyen-Orient, que nous puissions être tous inspirés par les valeurs célestes pour reconstituer notre cité terrestre.
Quel souvenir le peuple libanais garde-t-il de Jean-Paul II ?
Le grand ami du Liban, le même jour de son élection, il a adressé un message au Liban. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il a toujours défendu la cause libanaise. Mais ce que les Libanais retiennent de lui, c'est que ce pape connaissait les crises libanaises en détail, comme s'il était un Libanais. Et c'est dû à son expérience dans son pays. Il a connu le nazi, il a connu l'occupation communiste. C'est quelqu'un qui captait les problèmes. Il a très bien compris la situation libanaise et quand il ne s'exprimait pas en des termes communs, en des termes clichés, mais il mettait le doigt sur les blessures, comme nous disons en arabe, sur les problèmes, sur les crises. C'est pourquoi ils ont trouvé, les Libanais, dans le personnage de Jean-Paul II, quelqu'un qui a connu la situation, qui l'a défendue et qui l'a parlé au nom des Libanais quand ils ne pouvaient pas parler. Qui connaît ces déclarations comprend ce que je dis. Nous avons beaucoup profité de ces déclarations pour pouvoir parler de sa manière. Quand personne n'osait prononcer tel pays ou n'osait dénoncer ce qui se passait au Liban, lui, il dénonçait, soit au pays concerné, soit à la communauté internationale. C'est pourquoi les Libanais considèrent en lui un grand pape ami, père et défenseur de la cause libanaise.
Jean-Paul II, c'est aussi le pape qui a convoqué un synode sur le Liban. Est-ce que cette rencontre porte encore des fruits ?
Sûrement, parce que l'exhortation apostolique, ayant le titre « Espérance nouvelle pour le Liban », a été largement adoptée et accueillie tant par les musulmans comme par les chrétiens. Et nous avons travaillé beaucoup sur le plan de l'Église, sur l'application de cette exhortation apostolique. Et même aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une crise politique, sociale au Liban, tout le monde se réclame, musulmans et chrétiens, se réclament au principe de l'exhortation apostolique. Et nous l'avons traduite dans notre vie, nous l'avons traduite dans nos agissements. Et vous savez, il y a pas mal de parlementaires qui adoptaient dans leur campagne électorale, ne serait-ce que pour la campagne électorale, disait « Mon programme, c'est l'exhortation apostolique ». C'est pourquoi c'est un document qui a marqué la vie nationale libanaise et la vie ecclésiale et reste pour nous une référence de tous les jours parce qu'il porte tous nos problèmes, soit sur le plan religieux, soit sur le plan des institutions, soit sur le plan social, éducatif et politique. Donc c'est un document qui ne vieillit jamais, et c'est un document qui reste entre nos mains comme référence pour notre vie ecclésiale, nationale et sociale.
Quel souvenir gardez-vous de Jean-Paul II ?
Je garde de lui un grand souvenir d'intellectualité spirituelle, ecclésiale et morale. Pour moi, c'est un grand pape, c'est un pape qui a parlé de tous les problèmes de la vie ecclésiale, sociale et politique, et reste pour nous une grande source jusqu'à maintenant que nous reprenons de son enseignement. Personnellement, je garde tous ces documents, soit encycliques, soit exhortations apostoliques ou autres. Je les garde toujours chez moi. Je me réfère toujours à cet enseignement, à tel point que parfois on me critiquait et que je parlais trop de lui. Mais moi, j'étais fier de parler de lui et de son enseignement.
Quel peut être le message que cette béatification peut envoyer au monde ?
Le message, c'est que ce grand pape a pu conquérir tous les cœurs de tous les peuples. Preuve en est sa mort, la présence mondiale et internationale à ses obsèques. Preuve en est aujourd'hui, maintenant, la béatification qui va regrouper encore les représentants du monde entier. Qu'est-ce qu'il a fait ce grand pape ? Il a montré de l'amour à tout homme. Il a mis en relief la valeur de la personne humaine, sans distinction de race, de culture ou de religion. Pour les gens, pour le monde entier, Jean-Paul II reste le défenseur de la personne humaine, le défenseur de la foi de toutes les religions, mais en même temps, le proclamateur, le prédicateur, l'annonciateur du mystère du Christ. Je me rappelle maintenant ce qu'il disait. L'Église doit dialoguer avec toutes les religions et toutes les cultures, mais elle ne pourra jamais renoncer à proclamer le mystère du Christ. C'est le message pour le monde entier, et que la vérité unit et la vérité libère. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II, et ainsi a pu conquérir tous les cœurs et tous les intellects.